colonisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Bien, comment obtenir le financement de son projet? Vous savez, trouver de l'argent pour financer un projet de développement ou un projet de création d'entreprise n'est pas toujours chose facile. Bon nombre des projets intéressants sont rangés dans les tiroirs et les concepteurs sont découragés. Ils déplorent le fait que le gouvernement, les bailleurs de fonds ainsi que les institutions bancaires accordent difficilement les fonds. Et pourtant, il est possible de trouver le financement nécessaire à la réalisation de son projet. Comment procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables à remplir pour obtenir un financement, voilà, de son projet ou de son projet de développement ou un projet de son projet de création d'entreprise? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages, appelez déjà au 081 890 63 94. Yves Daniel Ngavan est expert en entrepreneuriat et directeur général des DRC Business School. Encore une fois, Yves Daniel Ngavan, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
Alors, nous parlons du financement des projets. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par un financement?
Ok, un financement, c'est une allocation financière qu'on attribue par rapport à un projet qu'on juge pertinent ou bancable, qui a été élaboré dans les normes et dans les conditions requises en matière de management de projet. Donc, ces processus d'allocation ou de dotation de fonds pour aider un projet qui est bien écrit, qui respecte les normes, à s'exécuter, c'est ce que nous appelons généralement le financement d'un projet.
Voilà. Alors, et quelles sont les raisons qui expliquent aujourd'hui bon nombre des créateurs de projets ou des concepteurs se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de financement ni du côté du gouvernement, ni du côté des bailleurs de fonds, ni du côté des institutions bancaires?
Tout à fait. Je dis c'est un grand problème aujourd'hui que nous, techniciens, nous sommes en train de déplorer techniquement, mais aussi quand vous allez dans ces institutions financières, ils sont en train de déplorer la même situation, c'est-à-dire il y a une carence qui s'observe en matière de dotation de financement par rapport au projet. Mais si on doit situer les problèmes clairement, il faut dire d'abord qu'il y a une sorte d'imbroglio ou de confusion qui règne dans la définition même de la thématique projet. Il y a beaucoup de gens qui confondent un projet à une idée ou encore à une vision.
Alors c'est quoi un projet? C'est toujours mieux de rappeler
oui,
aux auditeurs.
Le projet, c'est pas forcément une vision, c'est pas non plus une idée, mais le projet plutôt, c'est un ensemble d'actions qui doit obéir à trois principes essentiels. C'est-à-dire quoi? Un projet doit obéir au premier principe qui est la résolution d'un problème spécifique qui a été bien identifié au regard d'une situation quelconque et auprès d'une communauté bien donnée. Donc c'est le premier marqueur de tout projet. C'est le problème, l'identification d'un problème réel vécu au sein d'une communauté et qu'on a bien identifié. Deuxième principe, le projet doit obéir à la définition des ressources. On ne peut pas parler de projet si au départ on ne sait pas définir un plan de ressources ou d'octroi des ressources. Quand je parle des ressources, je vois l'ensemble des ressources humaines, les ressources matérielles, financières, et aujourd'hui nous ajoutons même la ressource relationnelle. Troisième principe, c'est que le projet doit d'abord aussi, également, bien sûr, être défini dans le temps. Donc, il n'y a aucun projet qui a une durée indéterminée. Le projet est toujours situé dans le temps. Mmh. Donc, lorsqu'on parle de projet, par définition, c'est l'ensemble d'actions qui nous accompagnent à résoudre un problème spécifique et réel rencontrer au sein d'une communauté. Deuxièmement, un projet doit dégager déjà des ressources qu'il faudra pour son exécution. Et ensuite, on doit nous définir un planning en termes de temps que ce temps, ce projet devait s'exécuter. Donc,
oui,
quand vous prenez
Daniel,
cette définition,
voilà,
vous allez vous rendre compte que c'est plus vaste qu'une une simple idée ou encore une simple vision.
Yves Daniel, on était en train de parler des causes, des raisons qui font qu'aujourd'hui, bon nombre des gens éprouvent des difficultés à trouver le projet. Est-ce c'est parce que les projets ne sont pas bien élaborés ou c'est parce que les institutions qui doivent financer n'ont plus les ressources?
Il y a deux problèmes essentiels. Premièrement, c'est le problème technique. Comme je le disais, certaines personnes qui vous disent qu'ils ont des projets qu'on refuse de financer, en réalité, c'est pas encore des projets. C'est juste des idées ou des visions. Ce sont des idées aléatoires. Ce sont des suppositions. Ce sont ce sont des sensations, en fait. Ce n'est pas encore techniquement de projet. Si vous voulez poser la question, apporte-moi ce projet, il vous dira non, j'ai toujours pensé faire ceci. Or, un élément important dans un projet, c'est que le projet doit être écrit. On ne peut pas parler d'un projet si vous n'avez même pas ce projet par écrit. Et pour écrire un projet, c'est pas une dissertation, c'est une logique, ça doit obéir à une certaine logique de rédaction et aussi d'organisation pour pouvoir convaincre ces bailleurs de fonds qui est en face de vous, qui doit voir cette littérature et ensuite vous donner de l'argent. Donc le problème est d'abord au niveau technique. Il y a très peu de gens ont la capacité de concevoir des très bons projets. Mais ils se plaignent, ils vont juste dire que c'est un problème de financement. Mais aussi, il faut dire qu'il se pose énormément de problèmes au niveau de nos structures qui doivent financer le projet. Pourquoi? Parce que il y a 7 critères essentiels pour qu'un projet soit éligible à un financement. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Il y a 7 critères clés que vous devez réunir si vous voulez voir votre projet être sélectionné lors d'un financement. Et ce sont ces critères que les gens ne tiennent pas compte. Ils écrivent ce qu'ils veulent ou ils prétendent dire ce qu'ils pensent. Mais quand il arrive devant un financier ou une structure qui donne des financements, on regarde ces 7 critères, on trouve que tu n'en as pas ou tu ne respectes pas ces critères, donc votre projet, peu importe l'intention, sera caduque. Mais aussi, il y a effectivement cette absence d'une politique, quand je parle surtout sur le plan de l'État, on n'a pas de banque aujourd'hui d'investissement qui peuvent octroyer des financements à un certain nombre de projets. Ceux qui le font, ce sont des banques commerciales avec des taux d'intérêt généralement catastrophiques parce que c'est énorme et à des courtes durées et avec des conditionnalités par moment qui ne donnent pas la possibilité à tout le monde d'accéder au financement. Mais moi, je pense que la plus grande question aujourd'hui, c'est d'aborder l'aspect technique de la situation que de condamner ou de dire que les banques ne financent pas, parce qu'on en a tellement décrié et que la solution pourra venir peut-être au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, en tant que porteur de projet, si tu veux obtenir un financement, moi je te conseille d'abord de comprendre les concepts de projet qui est différent des idées ou d'une vision sur le plan définitionnel, mais aussi tu dois comprendre les 7 critères d'éligibilité d'un projet. Si tu permets, je peux déjà citer quelques-uns.
Oui, allez-y. Alors, quels sont ces critères qui peuvent rendre un projet éligible?
Oui, le 7 critères d'éligibilité d'un projet, premièrement, c'est la pertinence. Donc, un projet, pour qu'il soit financé, on doit avoir la pertinence de ce projet. La pertinence veut dire tout simplement la raison d'être de ce projet. On ne peut pas élaborer un projet juste parce qu'on a un sentiment éphémère, parce qu'on veut changer quelque chose de manière éphémère. Il faut vraiment qu'on pose des bases, qu'on justifie la raison d'être de ces projets. Que ce soit sur le plan de développement, que ce soit sur le plan économique, on doit montrer qu'il y a un besoin pressant et ces besoins, on doit les solutionner tout de suite parce que soit la vie est en danger par rapport au cas humanitaire, soit encore on doit améliorer les conditions socio-économiques d'une communauté. Deuxièmement, c'est la cohérence. La cohérence, c'est par rapport à la démarche. L'idée peut être bonne, mais si vous ne savez pas comment, ne fût-ce que rédiger ces projets, quels sont les éléments qu'on ne doit pas mettre dans un projet, quels sont les paramètres qu'il faut tenir compte lorsqu'on doit rédiger un projet. Si vous ne savez pas le faire, quelle est cette logique dans la rédaction, dans la présentation de votre projet? Le projet ne sera pas éligible. Donc, c'est la question de la cohérence. Troisième critère, c'est la rentabilité. Il n'y a aucun projet qu'on peut financer si au départ, on ne se rend pas compte que ce projet a des germes de rentabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on doit calculer tous les paramètres économiques, on doit se rendre compte que si aujourd'hui on peut investir dans ce projet, on aura un retour sur notre investissement, le projet est rentable. Ou encore, si c'est un projet de développement, si on met de moyens, on est sûr que ce projet pourra être à la cause, résoudre le problème posé par l'initiateur vis-à-vis d'une communauté quelconque. Quatrièmement, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est par rapport à l'atteinte des objectifs qu'on se fixe dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent faire des choses, mais ils ne sont pas efficaces. Donc, on se rend compte que dans le passé, on lui pose la question, dans le passé, est-ce que tu as déjà entrepris une action quelconque d'envergure ou si petite que ça? Dans le même sens, il dit non, je n'ai encore rien fait. Et à ce moment-là, celui qui finance peut hésiter, il se dit, mais tu n'as jamais fait la chose, tu n'as même pas encore essayé ou tu n'as même pas expérimenté, alors comment on peut commencer avec toi avec de tels montants? Et c'est parmi les difficultés que nous avons aujourd'hui.
Oui.
Vous avez quelqu'un qui vous demande le financement de 10 000 dollars alors qu'il est incapable de vous prouver comment il a su gérer 100 dollars. Donc c'est devenu déjà un problème. Donc il y a aussi le cinquième critère, c'est l'efficience. L'efficience est liée à la gouvernance. Donc il est bon de présenter un projet, mais il faut nous garantir le mécanisme de gouvernance par rapport à la gestion de ses moyens sur le plan financier, sur le plan comptable,
oui,
sur le plan logistique, sur le plan de la ressources humaines. Comment est-ce que le management de ces projets va se faire sur le plan de la gouvernance? Ça s'appelle l'efficience. Sixième critère, c'est la durabilité. Donc aujourd'hui, on a besoin de projets qui peuvent s'auto-prendre en charge une fois que le financement initial s'arrête. Parce qu'il y a des gens vous leur donnez des financements aujourd'hui, je prends l'exemple des ONG, vous leur donnez les financements pendant 5 ans, et une fois que le financement s'arrête, et ils reviennent au point de départ. Donc ce financement n'a pas servi à la durabilité des projets, n'a pas eu un effet de levier pour permettre à cette structure de continuer à se prendre en charge après l'arrêt du financement. Ça s'appelle la durabilité. Et septièmement, enfin, c'est l'impact. Donc, lorsque on veut financer un projet, on doit voir quel est le changement dans le temps, de manière durable, que vous proposez, que votre projet pourra apporter. Est-ce qu'il y aura un changement descriptible, mesurable, à l'issue de la mise en place de ces projets si nous vous donnons un financement? Donc voilà un peu ces critères. Mais laisse-moi rappeler que tous ces critères font partie d'une grande session de formation des modules que nous animons généralement à DRC Business School, dont ce lundi nous commençons 10 jours d'atelier autour de ces critères. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses qui se discutent techniquement. C'est pas des simples littératures, parce que si vous restez dans la littérature, vous pouvez rester 100 ans sans avoir le financement de votre projet.
Comment obtenir le financement de son projet? Voilà, on retient qu'il y a des critères auxquels il faut répondre. Il faut tenir compte dans l'élaboration de votre projet pour augmenter vos chances d'obtenir un financement. Nous allons accueillir quelques auditeurs. Jérémy Mwamban et Talumbashi Malonga nous appellent des Bandounouville. Vous voulez également participer à cette émission de la vie au quotidien sur le financement des projets. Appelez-nous au 081 890 63 94.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits ou bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Comment obtenir le financement de son projet? Yves Daniel Ngavan, expert en entrepreneuriat et directeur général des DRC Business School, est l'invité au Capi Service ce matin. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour également à l'expert avec vous. En tout cas, nous saluons la pertinence de ce sujet parce que cela fait partie, hein, comment donc de la manière dont le peuple congolais ou ceux-là qui sont censés peut-être intervenir dans les cas de pallier un peu hein, à ce que le gouvernement fait, peut quand même propulser ce pays. Mais nous savons bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On remarque au jour d'aujourd'hui, lorsque une personne X ou un organisme conçoit un projet, donc c'est-à-dire pour sa matérialisation, on observe qu'au départ, ça va. Au départ, lorsque quelqu'un conçoit dans ses idées, vous voyez que non, ça peut bien tourner, mais on se rend compte que les problèmes clochent, ou là où ça semble que ça capote un peu, c'est au niveau de la plaque, l'application, donc, de ce dont on s'est fixé comme objectif.
Alors, Jérémy, quelle est la question? Quelle est la question que vous adressiez à l'invité?
Oui, donc je voudrais juste, avant d'en arriver aux questions, hein, donc je voudrais juste faire un peu quelques observations.
Non, on n'a pas beaucoup de temps, Jérémy. Allez tout droit au but. Posez directement la question parce que les autres attendent. Quelle est la question que vous adressiez à l'invité par rapport à ce sujet?
Oui, je voudrais juste poser la question de savoir, mais qui est censé être en droit donc, de recevoir ce dont il doit mettre dans ses projets? Et lorsqu'il y a ce don qu'on donne, lorsqu'il y a assistance pour la matérialisation d'un projet, est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement pour poursuivre? Parce qu'on voit, les gens commencent bien, mais ils finissent mal. Ça veut dire qu'on a eu un fonds au départ, mais arrivé à la fin, on n'arrive pas à matérialiser et ça ne profite pas au peuple congolais. On se rend compte que quelqu'un a fait un projet pour sa maison ou pour sa famille, mais le peuple congolais n'en tire rien comme profit. Je pense que lorsqu'il y a un projet qui est conçu, on doit chercher à ce que là où on installe le projet, là où on doit étudier donc les tenants et les aboutissants, question que la société congolaise en tire profit, parce que les projets doivent profiter à tout le monde. Et lorsque au départ nous concevons ça, nous devons faire, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi, parce que nous voyons de beaucoup des organisations internationales, organisations non gouvernementales, doivent soutenir le gouvernement dans la matérialisation de certains...
Merci Jérémy. Merci Jérémy de Lubumbashi. On va accueillir Malunga des Bandundouville. Malunga, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, ma préoccupation c'est celle-ci. Je m'attelle surtout sur les 7 critères que notre invité vient de soulever là. C'est félicitations. C'est bon. En tout cas, Jody, je vous dis, tous ces critères, ça se présente automatiquement dans un projet conçu. Mais c'est dommage pour nous. Moi, je vous dis souvent, et j'ai déjà déclaré ça à cette radio Okapi. Moi, j'ai responsable d'une association, d'un projet, Matraco, Malonga, travail au Congo. En tout cas, si vous arrivez ici aujourd'hui, vous verrez comment est-ce que si repérer les actions sont là. Et j'espère aussi l'État congolais à servir d'autres chômeurs.
Qu'est-ce que Matraco offre comme service?
Le service, je suis dans la publicité, je suis dans l'agriculture, je suis dans le commerce.
Alors, vous avez eu à solliciter un financement quelque part et puis ça n'a pas marché?
Plusieurs fois. Raison pour laquelle j'ai dit ceci. En tout cas, ce financement, je vous dis, c'est compte aussi de connaissances. Mais si vous n'êtes pas vraiment connu à ces gens qui sont là, qui travaillent là, en tout cas, je dis, vous ferez plusieurs fois et vous risquerez même de perdre votre projet et rester comme ça sans projet encore. De toute façon, vous voyez, il y a une forte résistance de ceux qui conçoivent de vrais projets, mais ils ne se présentent pas là où on peut financer.
Alors, Malunga, vous avez sollicité plusieurs fois les financements et vous l'avez jamais reçu. Quelles sont les raisons que les gens qui sont censés vous financer avancent?
Vous voyez, on sollicite le financement, vraiment, on écrit vraiment. Si vous écrivez, vous ne recevez aucune réponse. Alors, on va essayer de faire là. Ils ne m'ont pas répondu, ils ne m'ont pas invité, ils ne m'ont pas vraiment entendu. Alors, j'ai bien compris que non. Là, je n'ai pas réussi. En tout cas, c'est ça que je dis qu'il faut d'abord, nous, les concepteurs de projets,
Oui, Malonga, la communication se détériore. On a retenu que vous avez sollicité plusieurs fois des financements, mais aucune réponse ne vous a été réservée. Et vous affirmez que pour avoir un financement, il faut avoir des connaissances, connaître certaines personnes dans cette institution-là. Christian nous appelle des Kananga. Bonjour. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur Jody Kacham.
Quelle est votre préoccupation par rapport au thème du jour?
Oui, merci beaucoup, c'est un thème qui m'a personnellement intéressé parce que je suis concerné. Je me rappelle, il y a maintenant une année, nous avions dû travailler sur un projet bien rédigé, respectant les critères que notre invité venait d'énumérer. Mmh. Mais curieusement, on a même sollicité le financement auprès d'un bailleur de fonds.
De quel projet, type de projet il s'agit?
En fait, c'est un projet dans un domaine de santé. Il y a un problème qui saisit vraiment dans un village. Et ce que je voulais en train de dire, c'est que nous étions surpris de voir que notre projet est en train d'être exécuté par une autre structure. Bon, c'était quand même une histoire parce que c'est un problème qui est résolu, mais on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que notre projet soit exécuté par une autre structure. C'est ainsi que je pose des questions à notre invité. S'il peut nous dire qui est censé réellement élaborer un projet, et puis quelle démarche ou soit quelle diplomatie a utilisé devant le bailleur de fonds pour les séduire à vous financer, et aussi comment même choisir ce bailleur de fonds par rapport au type de projet que vous avez rédigé. Voilà un peu mes deux questions, si je peux avoir des clartés là-dessus.
Merci Christian de Kananga. Nous parlons aujourd'hui du financement. Comment trouver un financement de son projet? Ça peut être un projet de développement, un projet humanitaire ou un projet de création d'entreprise. Yves Daniel, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Par rapport à l'ami qui est appelé de Lubumbashi, je pense que le mécanisme de suivi, en principe, pour des projets de développement, le gouvernement de la République qui accepte, parce qu'il faut dire que tous ces financements viennent en appui à l'action du gouvernement, au niveau du ministère de plan, qui travaille avec d'autres ministères qui sont concernés par rapport aux thématiques de, si c'est un projet de santé par exemple, ils vont travailler avec la division, le ministère de la santé. Ils ont des structures de suivi, de mécanismes de suivi de projet, mais peut-être ces structures souffrent peut-être des petits problèmes de mise en place ou encore de l'efficacité. Dans mon humble avis, je sais qu'il y a des structures qui sont censées accompagner le projet pour faire les suivis, parce que quand on donne le financement à une ONG, ça ne doit pas servir à la construction de la maison de créateurs de l'ONG ou de se partager avec ses amis, mais ça doit être affecté à une cause qui a été défendue et qui a été exprimée dans le projet. Bien sûr, nous connaissons qu'il y a des dérives dans ce sens, c'est ce qu'il faut décourager parce que ça ne profite pas à nos communautés. Donc, le mécanisme, généralement, ça existe et qu'on doit les renforcer. Par rapport à notre ami Malonga qui a dit qu'il faut avoir des connaissances, ainsi de suite. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'antivaleurs dans notre pays et je suis heureux avec le nouveau leadership actuel qui prend la notion de la corruption et toutes les antivaleurs qui va en guerre contre tous ces antivaleurs, espérant qu'avec l'appui de tous les Congolais, on peut arriver à éradiquer ces phénomènes qui nous empêchent à se développer.
Mais et en plus, Malonga déplore le fait qu'il a écrit à plusieurs reprises à certaines institutions, mais aucune réponse ne lui a été réservée.
Oui. Tout à fait. Il y a deux raisons. Si on répond pas à Malonga, il y a deux raisons. La première raison, il peut prétendre avoir un projet techniquement écrit, il faut le vérifier. Parce que il y a le dire et le faire. Le projet, comme j'ai dit, c'est un document écrit, c'est pas de parole, c'est pas l'émotion, c'est pas la prétention. Le projet, c'est un document techniquement, exigeant. Donc, est-ce que réellement, il a écrit le projet selon les normes? Mais c'est pas seulement selon tes normes à toi, mais aussi selon les normes de bailleurs. Parce que chaque bailleur de fonds a aussi ses exigences. Et on doit en principe obéir aux critères de bailleurs pour se faire éligible. Et deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la notion de l'opportunité. Tu peux faire un projet que tu soumets à un bailleur qui demande le financement pour un élevage. Or, ces bailleurs, pour cette année, lui n'a pas une ligne budgétaire de l'élevage.
il veut plus travailler sur la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Oui. Donc, ne t'attends pas qu'il puisse dévier, détourner l'argent de la ligne budgétaire, l'amélioration des routes de dessertes agricoles pour qu'il te donne l'argent pour faire ton élevage. Donc, il y a aussi la question de l'opportunité. Parce que le projet peut être bon, mais il n'est pas opportun par rapport à la philosophie, par rapport à la définition de ligne budgétaire d'un bailleur. Et c'est ça que la plupart des chefs de projet ne comprennent pas. Ils pensent que quand tu viens avec un projet, tu vas à l'INISEP, tu déposes tout de suite un vote et donner l'argent. Est-ce que ton projet est en ligne de compte des priorités de l'INISEP pour cette année-là, pour ces mois-là, ainsi de suite?
C'est alors, Yves Daniel,
il est toujours important de s'informer auprès du bailleur avant de concevoir le projet pour qu'il vous donne des informations sur le modus operandi et aussi sur les disponibilités de fonds selon les lignes budgétaires.
Voilà, donc si je comprends bien, par exemple, pour ceux qui œuvrent, par exemple, dans les ONG, donc avant de soumettre un projet à un bailleur, il faut d'abord connaître quelles sont les priorités du bailleur pour cette année-là et amener des projets qui s'alignent par rapport à la vision du bailleur.
Tout à fait. Sinon, c'est comme j'ai dit, vous amenez un projet de l'élevage alors que la priorité, c'est l'éducation, par exemple, c'est l'achat des fournitures scolaires.
Oui, mais Yves Daniel, il y a un problème aussi. Si, par exemple, le concepteur du projet a remarqué que dans un village, par exemple, il y a un problème sérieux d'éducation par rapport à l'élevage, qu'il élabore un projet qui va répondre directement à ce problème, il y a maintenant un conflit, il y a un problème à ce niveau-là.
Oui, mais le problème, c'est que le projet peut être bon, il peut remplir les critères, mais le projet n'est pas opportun par rapport au financement, par rapport à la philosophie du bailleur, parce que c'est la main qui donne et qui définit les lignes directrices, c'est-à-dire que lorsque vous sentez que ce bailleur, pour ce bailleur X, votre projet n'est pas opportun, il faut recourir à d'autres bailleurs, peut-être qui pourront s'aligner par rapport à cette thématique. C'est pourquoi vous voyez même dans les systèmes des Nations Unies, il y a des poules d'urgence, il y a plusieurs structures qui tiennent compte de tous ces paramètres. Vous pouvez amener un projet qui n'est pas aligné, par exemple, dans le PTA, le plan de travail annuel de cette année, mais on trouve que c'est un problème qui se pose avec acuité, on peut le financer par les fonds d'urgence et faire autre chose. Donc, tous ces mécanismes-là, il faut les étudier, il faut les comprendre, et en passant encore, nous organisons des formations autour de ça, surtout pour le porteur de projets, de développement, les initiateurs des ONG, qui ne font que se plaindre, alors qu'en soi, ils n'ont pas suffisamment de capacités managériales et en matière de conception des projets, et voire même de gestion de ces projets. Mais aussi, notre ami qui a appelé de Kananga, qui a parlé de qui doit élaborer le projet.
Oui, Christian.
Le projet, tout le monde, tout citoyen qui sent qu'il y a un besoin, qui sent qu'il y a un besoin de changement dans un secteur donné, il peut écrire soit individuellement, soit se regrouper en association et proposer un projet auprès d'un bailleur ou auprès du gouvernement pour solliciter un financement. Mais aussi, il y a des mécanismes aujourd'hui avec des protections de projets au niveau des instances, par exemple Soneca et tout ça, où vous pouvez faire certifier votre projet pour qu'il ne soit pas trafiqué. Mais c'est aussi complexe, hein. Il faut dire qu'il faut encore qu'on travaille beaucoup sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que leurs projets ont été détournés ou utilisés par un autre. Mais aussi, il faut se dire, est-ce que réellement on a utilisé votre projet ou c'est juste votre idée qui a été mise, utilisée dans un autre projet? Parce que les idées ne sont pas quantifiables, les idées ne sont pas écrites. On peut réfléchir de la même façon au même moment ou à des différents endroits. Donc ne pense pas que si tu vois ce que tu pensais dans ta tête se réaliser, réellement on a volé ton idée. Donc quand les idées viennent, ça traverse les têtes de tout le monde. Donc il faut vraiment te rassurer que ton projet tel que ça a été écrit, c'est ça qui s'exécute, et non dire que non, ils ont volé mon projet parce que tu as vu cette idée se faire exécuter quelque part. Donc on doit quand même être un peu réaliste lorsque on fait ce genre d'analyse. Mais comment séduire un bailleur?
Comment séduire un bailleur? Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir Ketchai qui nous appelle de Kanyoka. Nous parlons aujourd'hui de comment obtenir le financement de son projet avec Yves Daniel Ngavan, expert en entrepreneuriat et directeur général de DRC Business School. Ketchai, depuis Kanyoka. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à notre invité du jour.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. J'ai trois petites préoccupations à soumettre à l'appréciation de l'invité. Parce qu'il parle de financement d'un projet, moi je voulais au moins demander, à la lumière de tout ce qu'il a déjà développé et par rapport aussi à certaines préoccupations de mes prédécesseurs, je lui demande de pouvoir donner quelques précisions pour savoir que faire normalement pour mieux connaître les règles du bailleur pour que les projets soient financés. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est bien de déposer les projets pour obtenir un financement avant que le budget du bailleur ne soit élaboré, ou soit pour que ces projets-là soient intégrés dans le budget, ou soit on peut avoir déjà élaboré le budget par le bailleur et vous déposez les projets après. Mais quelle voie à suivre normalement pour que cela soit accepté? Troisièmement, c'est pour terminer, quels sont par exemple les secteurs prioritaires dans l'élaboration d'un projet qui peuvent être finançables sans que les concepteurs ne puissent fournir beaucoup d'efforts pour obtenir le financement? Et merci beaucoup.
Bien, merci Kachai de Kanyoka. Comment connaître les règles du bailleur? De fond, à quel moment introduire le projet? Est-ce qu'il faut l'introduire avant que le bailleur ne puisse élaborer son budget annuel, ou à quel moment exactement? Et puis, quels sont les secteurs prioritaires? À Yves Daniel, revenons d'abord aux questions de Christian qui dit comment séduire le bailleur et comment faire le choix d'un bailleur de fonds.
Oui, merci beaucoup. D'abord, pour faire le choix d'un bailleur, il faut dire que tous les bailleurs, généralement dans un pays, ils sont bien regroupés et bien connus, bien identifiés, que ce soit des bailleurs qui travaillent dans les systèmes des Nations Unies, c'est-à-dire les agences des Nations Unies, ou encore les autres agents de développement, le USAID et tous les autres. Ils sont tous connus, ils ont des adresses e-mail et même des adresses physiques, voire même des bureaux de représentation. Donc la première des choses, c'est que lorsqu'on veut élaborer un projet, on doit d'abord savoir ce projet s'élabore dans quel secteur, et ensuite ça vise quel type de problème. Déjà, quand on a la connaissance du secteur et des problèmes qu'on veut solutionner, vous pouvez avoir l'idée sur quel bailleur que vous pouvez rencontrer pour avoir des échanges. Donc ça c'est de un. De deux, pour séduire les bailleurs, il faut être dans sa politique et dans sa vision. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord connaître la mission de ces bailleurs, et comme j'ai dit, vous pouvez les trouver à l'internet, vous pouvez vous renseigner sur l'adresse physique, vous allez avoir des informations sur les bailleurs. Ensuite, vous devez connaître les priorités de ces bailleurs pour l'année ou les 5 années ou l'année en cours. Parce que c'est partant de là qui peut vous financer. Il n'y a aucun bailleur, sauf dans les cas des procédures d'urgence, qui peut financer n'importe quel projet qu'on amène. Non, le bailleur procède de deux façons. Soit, si vous êtes déjà enregistré chez les bailleurs, partant de votre domaine d'expertise, il est possible que vous soyez invité à participer dans les réunions où on discute sur les activités, et vous pouvez comprendre les priorités et élaborer un projet dans ce sens. Deuxièmement, c'est par rapport à l'appel d'offres ou à l'appel au projet. Il y a des bailleurs qui lancent les appels au projet, avec où on explique toute la procédure et voire même le financement, les cibles, les indicateurs, les objectifs, les résultats attendus pour chaque projet. Et en ce moment-là, c'est à vous, porteur des projets, de bien lire l'offre d'appel à projet et de répondre selon les critères tels que le bailleur exige. En ce moment-là, une fois que votre projet sera en face de ces bailleurs, vous n'avez pas besoin de faire des mécanismes de séduction, parce que la meilleure façon de séduire un bailleur, c'est d'être dans sa politique, être dans sa vision, être dans sa priorité, dans ses priorités par rapport à sa ligne budgétaire, mais aussi de rencontrer les objectifs et les targets qui se fixent pour l'échéance X. Et cela fait que votre projet devient une contribution dans les prévisions du bailleur. Donc il n'y a pas d'autre mécanisme que d'aller dans ce sens-là. Bon, est-ce qu'il faut d'abord connaître avant de faire le connaître ses priorités avant d'élaborer les projets, ou attendre après? Je pense que la meilleure façon
c'est de connaître en amont. Parce que tous les bailleurs fonctionnent avec le plan de travail annuel qu'ils appellent généralement PTA ou d'autres termes. Donc, déjà, ils font des prévisions aujourd'hui pour des projets qui vont s'exécuter peut-être pour les 5 ans à venir. Mmh. Et si vous n'êtes pas dans cette logique, il vous sera difficile de marcher avec ces bailleurs. C'est pourquoi lorsqu'on est porteur de projet, on doit avoir des capacités de diplomatie d'aller vers le bailleur de fonds pour connaître leur philosophie. Ils organisent des réunions thématiques, ils organisent des conférences d'échange. Donc il faut une certaine souplesse de s'informer au lieu d'être dans un petit coin, tu élabores le projet comme tu veux et tu déposes, on te répond pas. Tu dis, moi j'écris des bons projets, mais on me répond pas. Or, tout simplement, la difficulté c'est que ton projet est bon, mais ton projet n'est pas opportun par rapport aux prévisions de ces bailleurs. Donc voilà un peu les quelques éléments que les amis doivent maîtriser. Et nous faisons l'effort lors de nos formations. Nous passons en revue les différentes catégories de bailleurs, par exemple, que nous avons en RDC. Oui. On leur donne même les contacts, les adresses, et on aligne, on essaye de les orienter, des gens que nous formons, par rapport à des secteurs, à des thématiques, pour qu'ils ne se perdent pas. Parce qu'il faut dire que vraiment, il y a vraiment de confusion. Il y a des gens qui veulent le financement, mais qui ne connaissent même pas les bailleurs. Donc, c'est un peu difficile.
Voilà, c'est un peu difficile. Comment trouver les financements de son projet? Vous avez dit tout à l'heure que la plupart des bailleurs publient des appels d'offres. Ils demandent aux gens qui ont des projets de se manifester pour tel ou tel autre type de projet. Mais il y a aussi un problème d'information. C'est pas tout le monde qui a accès à ces appels, à ces informations-là.
Oui, tout à fait. Vous savez, l'information, c'est quelque chose que tout le monde doit désirer. Les désirs de se faire informer, c'est une obligation individuelle. Parce que si vous ne vous informez pas, vous ne serez pas à la page de tout ce qui se passe. Mais je dis, je constate que les gens ont plus orienté le sujet dans le projet de développement, tout simplement parce que, comme nous disons généralement, les gens aiment l'argent facile. L'argent des ONG, c'est un peu de l'argent facile, parce que c'est de l'argent sans contrainte. Donc on vous donne 10 000 dollars, vous voulez aider les enfants malnutris, vous allez en faire ce que vous voulez, bien géré ou pas, ça dépend s'il n'y a pas de mécanisme de suivi. Mais les gens n'ont pas plus abordé la question du financement des projets à caractère économique auprès des banques. Parce que c'est là aussi il y a des soucis. Parce que aujourd'hui, il ne faut pas seulement faire des ONG pour aller chercher des projets à l'UNICEF ou à la MONUSCO, ainsi de suite. Mais il y a aussi des banques qui ont des financements et qui veulent financer des projets à caractère entrepreneurial. Mais combien d'entrepreneurs arrivent à décrocher ces projets? On accuse toujours ces banques de ne pas donner des financements. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des projets bancables à présenter à ces banques? Donc, nous devons aussi faire la part des choses. C'est là où j'ai dit aujourd'hui, oui. Pour pallier aussi à cette question par rapport aux banques, au niveau pays, il faudra qu'on réfléchisse rapidement sur le mécanisme de création de fonds d'appui aux projets à caractère économique.
Et d'accord. Ce sont des fonds oui. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Maître Elodie qui nous appelle de Kinshasa. Comment obtenir le financement de son projet? Ça peut être un projet à caractère, un projet de développement à caractère humanitaire ou un projet de création d'entreprise ou de développement de votre entreprise. Maître Elodie, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Yoni.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue tout d'abord la pertinence du sujet. Et je vous remercie, l'invité principal pour ses interventions, c'est vraiment édifiant. Alors, je reste tout de même sur ma soif, parce que une préoccupation que je voulais soumettre à l'invité, est-ce que, au regard de tout ce qui a été évoqué ici par rapport aux antivaleurs, par rapport aux difficultés de financement dues au fait qu'on n'a pas de relation dans la boîte du bailleur, je vais dire, oui. Au-delà de la pertinence ou de toutes les conditions auxquelles peuvent répondre un projet qui souvent s'avère atteindre, donc les conditions sont en bonne et due forme, la pertinence, la cohérence, tous les 7 critères, mais il se peut que souvent, alors qu'on a été informé de la priorité ou de du besoin du bailleur de financer ce projet-là, mais on se trouve souvent les soumissionnaires où le projet n'est pas financé. Et j'allais proposer ou j'allais soumettre ma préoccupation à l'invité. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes à développer de sorte que l'anonymat des personnes soumissionnaires ou des structures qui, donc, celui qui sélectionne les projets,
oui,
ne puisse pas connaître effectivement la personne,
l'identité de la personne qui soumet le projet.
Oui, c'est fier sur les critères objectifs qui sont auxquels doit répondre le projet. Parce que ce qu'on constate, c'est que quelles que soient les conditions auxquelles répondent les projets, souvent les projets sont rejetés tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation dans la boîte. Et lorsque les bailleurs ont des projets, souvent ils commencent par chercher ou identifier les personnes qu'ils connaissent pour leur dire, proposer un projet. On va financer dans tel ou dans tel autre secteur. Bien qu'il y ait plusieurs autres soumissionnaires, tous les autres qui rédigent des bons projets qui doivent être financés, mais comme eux-mêmes avaient déjà cherché, déjà ils disent non, voilà, et ils leur donnent toutes les informations nécessaires pour que le projet soit réussi.
Maître Lodi, il y a aussi ce qu'on appelle opération retour. Donc, on accepte votre projet.
Je voulais y arriver. Et lorsque ils le font, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont les intérêts des gens. Et quel que soit ce qui est proposé, comme ils ont déjà toutes les informations, comme ils ont déjà tous les critères qui leur ont été donnés, ils sélectionnent en vertu de leurs intérêts. Et ça, c'est un problème. Et notre problème, c'est notre l'État. Parce que l'État aussi n'a pas un œil regardant pour réguler cette affaire de sélection des projets vis-à-vis des bailleurs étrangers surtout. Donc, je parle des organisations non gouvernementales, internationales ou locales. Et donc, l'État devait jouer un rôle comme sous d'autres cieux, on le voit. Vous devez, lorsque vous avez un projet, les organisations non gouvernementales doivent s'aligner sur le programme de l'État, dans tel ou tel autre secteur, sur tel ou tel autre endroit identifié. Et ça éviterait qu'il y ait, comme on le voit maintenant, plusieurs projets dans un même secteur, et on vous dit non, ça c'est ça qui correspond à nos priorités, à notre plan annuel de travail, comme a dit l'invité. Tout ça c'est parce que l'État ne régule pas, et les organisations ne s'alignent pas par rapport à l'État qui doit dire voilà les besoins.
Quelles sont mes priorités,
Quelles sont mes priorités, et voilà, j'ai déjà eu le financement par exemple de l'UNICEF ici, de Save Children, et là-bas de l'OMS dans le secteur de la santé. Et vous voyez, tous les bailleurs se concentrent dans un secteur, sur un même, dans une même communauté, et il y a beaucoup de choses, et ça empiète même sur la durabilité et l'impact durable du projet. Et donc moi, c'est vraiment des préoccupations que je soumets à l'invité, s'il y a lieu en tant que spécialiste et expert, de réfléchir, parce que c'est bien de former des gens. On peut faire des formations, on peut venir pour se former, mais tant qu'il y a des problèmes structurels qui persistent et qui font que malgré les connaissances qu'on a dans tel secteur, on se bute toujours à ces problèmes.
À ce genre de difficultés.
Oui, à ce genre de difficultés.
Merci.
Donc, que ce soit les projets financés par le gouvernement, que ce soit financé par les ONG locales ou internationales, il y a ces réels problèmes d'identité des personnes, de l'intérêt que les bailleurs a de financer X ou Y, et souvent l'intérêt aussi va dans le sens de l'intérêt privé ou personnel de ceux qui financent.
Merci. Merci Maître Elodie de Kinshasa. Yves Daniel Gavane, vous avez la parole.
Oui, je pense qu'elle a posé un vrai problème de la gouvernance de projet qui doit être traité à tous les niveaux avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Et nous espérons que avec l'alternance que nous avons obtenue, avec tous les changements qui sont en train de se mettre en place au niveau de la République, qu'on saura bien recadrer rapidement des choses pour que le projet de développement bénéficie à la population et non à des intérêts égoïstes et égocentriques.
Donc, je pense que il faut retenir deux choses dans ce qu'elle vient de dire. Premièrement, notre pays a ratifié en 2004 ce qu'on appelle la Déclaration de Paris sur l'efficacité liée à l'aide au développement, avec ses cinq piliers: l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la redevabilité. Aujourd'hui, le pays doit mettre en place des politiques qui respectent cette Déclaration de Paris que nous avons ratifiée en 2014. Mais malheureusement, comme l'a dit madame, certains bailleurs viennent faire la loi sur le terrain, ils ne veulent pas s'aligner aux priorités du gouvernement parce que ce sont eux qui apportent l'argent et ils prennent des décisions ou des directions d'orienter leurs fonds dans les secteurs qu'ils préfèrent au lieu de se mettre d'accord avec l'État. Et c'est là où aussi la faiblesse au niveau de la gouvernance des projets, au niveau de l'État, au niveau des ministères. Et ensuite, deuxième élément, c'est la complaisance. Vous savez que la corruption, le clientélisme, effectivement, nous devons les dénoncer avec la force énergie. On ne peut pas se les cacher. On sait que il y a beaucoup d'abus dans ce sens, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment une forte volonté politique qui sera accompagnée des actions et aussi des compétences pour pouvoir mettre hors d'état de nuire toutes ces pratiques. Mais pour les sélections des projets, je peux rassurer à madame, en principe, si un projet est bien élaboré, ce projet doit être financé. Parce que tout bailleur sérieux, il prend des dispositions pour sécuriser le meilleur projet et de donner le financement. C'est sûr que dans la chaîne, il y a toujours des petits aventuriers qui veulent les opérations retour, ainsi de suite. Oui. Mais le bailleur sérieux tient à ce que de vrais projets arrivent à terme pour obtenir le financement. Et on prend toutes les dispositions nécessaires pour épargner, d'ailleurs, pour la sélection. Il y a des bailleurs qui font appel à des structures spécialisées, par exemple DSC Business School, qui est une structure indépendante. On ne se connaît pas avec le porteur de projet. Nous, on vient juste pour certifier vos projets et faire un rapport au bailleur que c'est le projet X, Y qui est meilleur, sans connaître forcément l'identité des porteurs de projet. Et aussi, il y a une autre chose qu'on doit retenir, tout ce qu'il y a la question de la pertinence du projet et de l'opportunité du financement. Le projet peut être bon, mais il n'est pas opportun pour des raisons que le bailleur peut se dire. À ce moment-là, il n'a pas de fonds suffisants pour appuyer, il faut attendre un peu plus tard, ou encore il doit redéfinir sa politique par rapport à l'année, alors qu'il avait déjà fait l'appel d'offres, ou encore il y a une autre urgence et qui a fait que les actions doivent aller dans une telle ou telle autre direction, ou encore on vous demande d'attendre un tout petit peu. Donc, le projet, si on ne vous donne pas les financements, cela ne veut pas dire forcément que votre projet est mauvais, ou forcément il y a eu corruption, mais aussi la notion de l'opportunité, au moment où on doit vous financer, il s'est posé d'autres problèmes peut-être techniques, et on pourra revenir vers vous un peu plus tard. Donc, ce sont des notions que nous devons tous retenir en tant que porteurs des projets.
Voilà, donc ce sont les notions à retenir. Yves Daniel, on va bientôt clôturer cet entretien. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plus penché vers les projets de développement. On n'a pas beaucoup parlé des projets de création d'entreprises. Alors, vous avez, avant à déterminer, vous avez parlé, par exemple, des banques. Aujourd'hui, les gens se plaignent toujours au niveau des banques. On obtient difficilement les financements et les taux d'intérêt sont toujours élevés. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes, un mot par rapport à cela?
Oui, par rapport à ça, je pense qu'il faudra d'abord, ces gens qui veulent avoir des projets auprès des banques doivent savoir comment on rédige un projet d'affaires qui est différent d'un projet de développement. De deux, il faudra qu'au niveau pays, qu'on puisse lever l'option sur le mode de financement des projets pour encourager les porteurs de projets à caractère économique, notamment les jeunes, à accéder au financement en travaillant avec les banques pour qu'ils revoient leur taux qui est tellement élevé, des conditions en termes de garanties qu'on impose généralement aux gens qui ne sont pas en mesure de les faire. Si on veut avoir une économie solide, je pense qu'on doit être sérieux aussi dans le financement des projets aussi. Enfin, l'État lui-même doit constituer un fonds pour appuyer. J'ai salué le 100 jours de chef de l'État, le programme d'urgence. Et si aujourd'hui, dans le même élan, on peut aussi créer un fonds d'urgence pour appuyer les projets à caractère économique, notamment des jeunes, dans le temps prochain jour, je crois que vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourront créer des entreprises et ça permettra à ces jeunes de créer des emplois. Donc c'est aujourd'hui une question vraiment de simple volonté politique et d'action et d'expertise
pour pouvoir sortir notre pays de cette situation. Et de notre part, nous continuons à travailler au niveau de DSC Business School avec notre programme de 10 jours de formation sur le financement des projets. Et nous invitons des gens qui ont l'argent, mais qui ne savent rien faire avec, de venir voir comment on peut utiliser son argent à travers un projet et faire des bénéfices.
Voilà, avant de terminer, il y a Jérémy qui avait posé la question par rapport aux mesures d'accompagnement d'un projet. On peut aller auprès d'une banque solliciter un financement pour un projet, mais est-ce que la banque va vous accompagner jusqu'à l'exécution du projet? Parce qu'il y a des gens qui ont pris l'argent et juste après, ils ont changé d'idée ou bien ils ont vite pris un avion pour aller s'installer en Europe.
Oui, je pense que cette période est largement passée. Il y a eu des gens qui se sont aventurés à faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je crois que les banques mettent en place des dispositifs assez sérieux et musclés pour garantir leurs fonds, parce que c'est une perte énorme quand quelqu'un prend de l'argent dans une banque et il s'enfuit avec. Donc la banque sera vraiment en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des services qui s'occupent personnellement de crédits, d'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai vu même des banques qui commencent même à former leurs clients sur les procédures financières et autres pour qu'ils gèrent correctement leurs fonds. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra encourager, mais l'État doit vraiment intervenir dans ce secteur, parce que si on laisse les banques entre... Si nous n'avons que des banques commerciales et sans banques d'investissement, ça sera difficile, parce qu'une banque commerciale, il est là pour faire des affaires et le taux d'intérêt sera toujours supérieur. Mais si aujourd'hui on a des fonds de l'État ou des banques d'investissement, comme on a dans d'autres pays, les gens peuvent avoir des crédits de 30 ans, remboursables dans 30 ans à 50 ans. Ça vous donne la possibilité de mettre en place de grands projets de développement et des intérêts économiques qui pourra relever l'économie du pays.
Bien, Yves-Daniel Ngaban, expert en entrepreneuriat et directeur général des DRC Business School. Merci et à la prochaine.
Je vous en prie, merci.